Bon, ben voilà, on était parti pour être un peu en avance et puis en fait.
On est un tout petit peu en retard.
On est un tout petit peu en retard, ouais.
Ça passe.
Bon,
c'est allez. La faute de la galette.
C'est parti. C'est ça.
Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Résiste.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé.
Résiste.
Debout, fameux esclaves.
Eh bien le bonjour chères auditrices, auditeurs de Radio Larzac et bienvenue dans l'antre des Cyprinettes vous guette. Ce mois-ci, bah, je me sens un peu moins seule en studio puisque Chloé est revenue parmi nous. Et Marie est revenue de son long périple. Coucou Marie.
Coucou les filles.
Et salut Émilie.
Salut.
Alors, dans nos culottes, aujourd'hui, des meufs et des bouquins. Les belles histoires de Tata Chloé,
ou pas.
Et puis, je vais vous parler testostérone et compagnie. Et pour finir, la boîte de Pandore, Chloé va nous causer du fameux festival de la BD à Angoulême, où visiblement les gonzesses n'ont pas leur place. Mesdames, je vous invite à ouvrir vos esgourdes et à vous munir de carnets et de stylos pour ne pas louper une miette. Grâce à l'ami d'une amie, j'ai en ma possession le guide de la parfaite épouse. Et oui, il est là à Radio Larzac dans les Cyprinettes, c'est wonderful! Je vais donc vous donner quelques tuyaux pour être la femme idéale. Tata Chloé, que nous as-tu préparé pour le goûter ?
Les chroniques de... Eh ben non. Alors, bon, bah, aujourd'hui, de toute manière, pas de tata, juste Chloé, pas d'historique.
Oh non !
C'est juste une chronique, parce que les dates, ça me pique. En fait, j'ai juste envie d'en parler aujourd'hui. Et ben, de quoi ? Ben, vous verrez si vous écoutez la chronique de Chloé. La chronique de Chloé. Alors aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait parler des femmes dans la culture, ou la culture des femmes, ou cultivons les femmes, je sais pas, au choix. Bon, on a fait fort hein, pour ce thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est vaste. Beaucoup de champs à défricher pour traiter de la culture faite par les femmes, pour les femmes. Bref, du coup, je suis allée faire un petit tour dans mon jardin, ma culture à moi. Une femme. Enfin, aux dernières nouvelles en tout cas. Alors depuis que je suis petite, j'ai semé beaucoup de graines différentes. Mais celles qui ont bien poussé, auxquelles je me suis attachée, elles sont toutes d'une même espèce plutôt littéraire. De la science-fiction, de la BD, de la fantasy. Du coup, pour cette chronique, j'en ai récolté quelques-unes pour vous. Attention, ça va dépoter. Ah, quelle chanson inoubliable ! Oui, la science-fiction, ça a longtemps été un truc de garçon. Regardez les images qui perdurent de ses premières apparitions dans la culture populaire, souvent sous la forme de livres de poche. Femme enlevée, prise au piège des tentacules d'un extraterrestre, un viril cosmonaute, Bob Moran à rayon laser venant la secourir. Mon grand-père, il disait que ça, bizarrement, à l'époque, ça m'attirait pas trop. Et puis, comme beaucoup d'autres jeunes lecteurs tristes, je suis arrivée à lire de la science-fiction et de la fantasy à travers les fondations d'Isaac Asimov ou les livres d'Arthur C. Clarke et Ray Bradbury, les œuvres de Tolkien. Je me considérais comme une fan de science-fiction, puis j'ai lu Les ruines d'Isis de Marion Zimmer Bradley. Alors je ne sais pas si vous êtes une femme, je ne sais pas si vous aimez la science-fiction, mais si c'est le cas, lisez-le. J'adore toujours les écrivains que j'ai cités précédemment, mais l'idée que mon genre littéraire de prédilection pouvait en fait être écrit pour moi, sur moi, une femme, par une femme, pour les femmes, ça m'était complètement inconnu. Donc Les ruines d'Isis, c'est un des nombreux romans de science-fiction provocateurs qui ont émergé à la suite de la seconde vague de féminisme des années 60-70, rappelez-vous les belles histoires de Tata Chloé, partie 1. Alors, selon moi, la science-fiction, c'est un des médiums les plus efficaces pour articuler les aspirations du féminisme. Parce que la science-fiction, après tout, elle est définie par sa capacité à construire des réalités alternatives cohérentes. Et parmi elles, et ben pourquoi pas des mondes libérés du patriarcat, comme dans Les ruines d'Isis, ou des utopies dépassant les genres et les sexualités, comme dans le Didaka. De telles inventions, c'est pour moi aussi attractive, et malheureusement aussi exotique, que des villes lunaires ou un monde de robots. Et en plus, il paraît que les femmes sont des extraterrestres, alors qui de plus approprié pour écrire des histoires d'aliens ? Sinon, comme l'écrit Johanna Russe dans L'autre moitié de l'homme, « Pour résoudre les contrariétés, unissez-les dans votre propre personne. » Ça, c'est pour moi une bonne métaphore de ce qui fait aussi la culture et la littérature, en nous donnant accès à l'étrangeté infinie du monde et de ses possibilités, et qui nous permet aussi de parler d'un monde libéré des contraintes déterminées par le genre. Donc le rôle de la SF, c'est de nous offrir des mondes si différents du nôtre, parce que leur étrangeté, ça clarifie notre normalité, et ça la rend, elle aussi, cette normalité étrange. En nous donnant des aperçus de mondes alternatifs, d'endroits où les propriétés intellectuelles et culturelles que nous tenons tous pour acquises sont renversées, la science-fiction, elle nous aide donc à percevoir notre réalité sans a priori. La science-fiction féministe est une clé, écrit la critique Marlène Esbar, pour révéler les intentions souvent cachées de la patriarchie. Alors, un exemple ? Par exemple, imaginez-vous vivre toute votre vie dans une colonie de femmes, élevant seulement des filles, et vous retrouver face à un homme pour la première fois. Il vous paraîtra au moins étranger, comme dans cette description du livre « Quand ça change » de Johanna Russe. Ils sont plus grands que nous, ils sont plus grands et plus larges, ils sont manifestement de notre espèce, mais différents, indescriptiblement différents, et tandis que mes yeux ne pouvaient pas et ne peuvent toujours pas comprendre les lignes de ces corps étrangers, je ne pouvais pas me résoudre à les toucher. Je peux simplement dire qu'ils étaient des singes au visage humain. Sympa la description, hein ? Donc en reprenant l'idée que la littérature de science-fiction inverse les codes de la réalité, on peut se demander, en reprenant cette description-là, mais est-ce que c'est comme ça que les hommes ils nous perçoivent, nous, les femmes ?
Peut-être comme des singes, mais comme des singes sans poils.
Oui, merci Marie pour cette précision.
Vive le poil.
Bon. Oh non. En gros, l'objectif, c'était de vous montrer que la littérature de science-fiction féministe, elle joue des codes de l'altérité et du genre pour faire passer son message. Voilà, c'était l'idée de base. Bon, de toute manière, un peu importe le message, l'idée, c'est surtout de laisser glisser les idées préconçues. Et là où elles tombent, le sol est jamais... plus jamais solide, mais il devient enfin fertile et prêt à être cultivé.
I get it.
Hey, on fait un ping-pong.
Un pong ?
Un pong, ouais, un ping.
Marie ?
Ça vous dit ?
Un ping-pong ?
Émilie ?
Ouais.
Émilie, un ping-pong ?
Grave.
Allez. Alors,
attends, je sors les raquettes.
Ouais, attends. La règle, pas de liste, que nos cerveaux.
Nos quoi ?
Vas-y, creuse. Allez, qui c'est qu'engage ? Attends. Vas-y, mais je suis prête.
C'est quoi le thème du ping-pong ?
Les femmes dans la culture.
Enfin, j'avais pas compris.
Des noms d'héroïnes, il me semble.
Ouais, enfin.
Ce qu'expliquait Marie. Chloé.
Oui, moi, c'est Chloé. Salut.
En début d'émission.
Ah ouais, dis donc. Chloé,
c'est moi.
Ah ouais, depuis le début, je t'appelle Marie, en fait.
Oui. Bon, allez, on se la fait, cette partie. Qui
allez,
c'est qui commence
parti.
Allez, qui c'est qu'engage ?
Allez, moi, j'engage.
Attention.
Louise Michel.
Ouais, Yasmina Kadra. Allez.
Sailor Moon.
Fleur Pèlerin.
Patti Smith.
Yoko Tsuno.
Ségolène. Non, non.
Princesse Sarah.
Ah oui. Ursula Le Guin.
Lucie.
Olympe de Gouges.
Oh.
Toi, t'as écouté les Cyprinettes.
Non.
Bon, un partout, la balle au centre.
Ouais.
Allez.
Ok, merci. Oula, ça m'a donné des sueurs, ces ping-pong. Ah, c'est à moi.
Oui, c'est à toi, oui.
Sans transition, non, Mimi.
Sans transition, non, mais tout va bien. Si, c'était le petit... Non, mais laissez-moi me remettre des émotions. De mes émotions. Alors aujourd'hui, je vais vous causer de meufs, de mecs meufs, de meufs devenus mecs. Alors je vais commencer par Virginie Despentes, écrivaine scénariste de nos jours. Est-ce que vous connaissez Virginie Despentes ?
Oui.
Voilà, et alors tout à l'heure tu parlais de la science-fiction, des hommes sauvant, des nanas, etc. Et bien en fait, le bouquin dont je vais parler de Virginie Despentes, King Kong Theory, en fait la couverture c'est King Kong avec une petite meuf dans ses bras, enfin voilà, qui sauve. Ouais. Bon, voilà. Donc son œuvre, Inventaire de la marginalisation de la jeunesse, participe étroitement à la libération des mœurs par la génération X et l'acclimatation de la pornographie à l'espace public induite. La romancière, comme la cinéaste, propose une critique sociale et un antidote au nouvel ordre mondial. Plus encore, ses personnages interrogent sur un mode identificatoire le dérangement du sujet qui conduit de la misère et l'injustice à la violence contre soi-même, telle que la toxicomanie, le terrorisme ou comme autrui, ou contre autrui, pardon, comme le viol et les violences dont elle a eu elle-même à souffrir. Alors du coup, avec King Kong Theory, je l'ai lu. Moi, c'est un bouquin, je sais pas. Je crois qu'Émilie, toi, tu l'as lu. C'est un bouquin que je trouve assez super. Ça fait un peu autobiographie.
Ouais, mais on en avait parlé.
Voilà,
quand
t'étais. Pas
mal de temps.
Voilà.
Moi, c'est un de mes bouquins de chevet. Hein,
d'accord. Ouais. Et voilà. Et en fait, ça trace un peu sa vie, ce qu'elle a pu vivre et comment elle s'en est sortie malgré où elle s'est faite violer et comment elle s'en est sortie.
Elle est assez nouveau sur le viol aussi.
Voilà, ouais.
Pas
ouais.
Se mettre en victime toujours. Mmh. C'est ça qu'elle mettait en avant, une époque où c'était difficile d'en parler du viol et de deux. De s'en remettre ou alors de ne pas avoir à s'en remettre, c'est ça qu'elle lance comme idée qui est assez intéressante aussi.
Ouais, je vous invite à le lire. Enfin, il est pas énorme, il se lit super vite et super bien. Donc, je vais vous donner, je vais vous faire une petite lecture de la quatrième de couverture. Alors, j'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché de la bonne meuf. Aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être, mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois qu'il n'existe pas. Virginie Despentes, en racontant pour la première fois comment elle est devenue Virginie Despentes, l'auteur de Baise-moi, conteste les discours bien-pensants sur le viol, la prostitution, la pornographie, un manifeste pour un nouveau féminisme. Voilà, Virginie Despentes. Et aussi, Virginie Despentes qui est en couple. Voilà, je fais un petit peu gala. Ouais, alors voici. Alors aujourd'hui, non, voici. donc Virginie Despentes qui était en couple avec l'auteur dont je vais vous parler maintenant, qui, alors avant, enfin, s'appelle Béatrice Preciado, qui a écrit un livre qui s'appelle Testo Junkie, et qui est devenue depuis peu Paul Béatrice Preciado, qui en fait donc est devenu homme. Donc c'est un philosophe espagnol qui est né en 1970 en Espagne. Donc Preciado est proche des mouvements féministes queer transgenres. Donc son bouquin, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle Testo Junkie, en fait il a voulu tester l'expérience de prendre de la testostérone, non pas pour devenir un homme, mais en gros pour dire fuck aux assignations de genre. Et il veut remettre en cause le genre imposé par la société, voilà, homme, femme, homme bleu, femme rose, etc. Et lui-même se considère d'abord comme une femme lesbienne, puis comme une Gwyn trans, garçon-fille, revendiquant n'appartenir à aucun des deux genres masculin et féminin. Et du coup, j'ai commencé à me plonger dans son bouquin, mais voilà, vous voyez, hein, son bouquin qui est assez conséquent, qu'on m'a gentiment prêté. J'ai commencé à le lire et ma foi, il y a des choses intéressantes à lire. Et c'est pareil, j'ai sorti des petits mots là, queer, transgenre, mais vous inquiétez pas, parce que je pense qu'on fera une cyprinette sur les définitions, les nouvelles définitions, ou les anciennes définitions, ou les mots. Attendez, je sors les rames.
Ou les futures définitions.
Les futures définitions. Voilà. Donc on va écouter un petit interview donc de Paul Béatrice Preciado qui parle un peu de son bouquin de Testo Junkie. Je peux faire une petite intro de sa quatrième de couverture. Donc je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, mais pour trahir ce que la société a voulu faire de moi, pour écrire, pour baiser, pour ressentir une forme de plaisir post-pornographique, pour ajouter une prothèse moléculaire à mon identité transgenre low-tech, faite de godes, de textes et d'images en mouvement pour venger ta mort.
Alors, Testo Junkie, c'est un protocole d'intoxication volontaire à la testostérone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, j'ai décidé de prendre la testostérone, mais en dehors d'un protocole des changements de sexe juridique, psychiatrique, médical. Ça ne veut pas dire pour autant en fait que c'est une critique en fait aux personnes qui vont faire une transition vers la masculinité dans un protocole médical, mais simplement en fait pour moi c'était un processus d'expérimentation politique. Et donc j'ai décidé en fait, si vous voulez, de faire cette expérimentation qui n'est pas du tout en fait, même si le livre a été écrit pendant 9 mois. Donc j'ai décidé, justement, je parlais tout à l'heure de l'écriture comme une technologie de production de subjectivité. Donc j'ai travaillé vraiment avec ces deux technologies. D'un côté, en fait, la testostérone en gel, et de l'autre côté, en fait, l'écriture comme deux pratiques en fait, qui, à un moment donné, ils vont commencer à produire quelque chose. Et en même temps, j'ai mené une recherche sur... autour de la invention et la commercialisation en fait des hormones par l'industrie pharmaceutique en fait. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à élaborer, si vous voulez, un peu comme une relecture critique en fait de l'histoire de la sexualité de Foucault. Et c'est-à-dire que Foucault, si vous avez un peu suivi l'histoire de la sexualité de Foucault, Foucault a beau travail d'une part sur la sexualité gréco-romaine en fait ancienne, mais aussi va travailler beaucoup en fait sur la sexualité dans la période 18e-19e, notamment dans la période qu'il appelle lui régime disciplinaire, et donc dans ces rapports étroits entre la biopolitique, la gestion et la production de la vie et la normalisation de la sexualité au 18e et 19e siècle. Et donc c'est comme ça en fait qu'il va mener en fait, même pas frontalement, mais de manière beaucoup plus oblique, en fait, vraiment une critique de l'hétérosexualité normative. Sauf qu'il me semblait qu'effectivement, la tâche critique de Foucault, quelque part, malheureusement, elle s'arrête vraiment à la fin du 19e siècle, en fait, et que Foucault, malgré les faits en fait, qu'il va connaître pendant sa vie les mouvements féministes, les mouvements homosexuels, etc., peut-être aussi à cause en fait de sa propre position en fait dans le, au Collège de France, dans l'université française, dans, par le fait que lui-même il est homosexuel, etc. Donc je pense qu'il a eu vraiment une difficulté à vraiment prendre la parole directement sur la sexualité contemporaine. Et donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'était élargir la recherche de Foucault en fait à partir de la fin du 19e siècle, en fait, il pensait plutôt au 20e siècle. Et c'est en rapport en fait avec cette recherche autour de l'invention et la commercialisation des hormones que je me suis rendu compte en fait que quelque part on avait besoin de penser à un troisième régime qui n'était ni souverain, pour le dire avec Foucault, ni disciplinaire biopolitique, mais qui était vraiment qui travaillait avec des nouvelles variables, en fait, avec des facteurs de production de la subjectivité des corps totalement nouveaux. Et donc j'ai décidé d'appeler ces nouveaux régimes en fait pharmacopornographiques. Voilà, d'une part par la centralité en fait de la biotechnologie en fait dans ces régimes, c'est-à-dire que par exemple en fait ce qui définit la production de la subjectivité sexuelle au 19e siècle en fait, si vous voulez, c'est les passages du sujet à travers toute une série des institutions closes en fait, qui sont la famille, l'usine, l'école, l'hôpital, etc. Donc c'est dans cette processus, si vous voulez, de traverser ces architectures disciplinaires qu'est en fait la subjectivité est produite. Alors dans le XXIe siècle, en fait, et selon mon hypothèse, en fait, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on va assister à un effondrement progressif en fait des institutions disciplinaires, et donc si vous voulez, à une transformation des techniques de production du corps et de la subjectivité. Et donc, cette transformation passe par une miniaturisation, en fait, des techniques de contrôle, mais aussi, en fait, par une biotechnologisation, en fait, la transformation de ces institutions disciplinaires en prothèses biochimiques qu'on va pouvoir, si vous voulez, y compris, en fait, manger, avaler, et donc qui vont vraiment littéralement transformer les corps en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin en fait de passer par l'hôpital, parce qu'en fait en réalité on va prendre une pilule et donc cette molécule en fait va transformer, va produire un certain nombre de changements. Et peut-être l'exemple en fait, si vous voulez, les plus clairs, les plus paradigmatiques en fait de ces transformations des technologies de production du corps et de la subjectivité, c'est vraiment l'invention de la pilule anticonceptive en fait entre les années 40 et 60. Et donc et aussi en fait, si vous voulez, la séparation technique pour la première fois et biotechnologique en fait, pharmacologique des hétérosexualité et reproduction sexuelle. Et donc, du coup, on se retrouve en fait dans une constellation culturelle, sexuelle, totalement différente. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être vous êtes là dans la salle et vous pensez que vous êtes hétérosexuel ou homosexuel. Et moi, je vous invite, en fait, si vous voulez, à faire un processus d'émancipation cognitive. Ces notions sont totalement obsolètes. C'est-à-dire, tout ça, c'était vraiment c'est valable en fait pour les taxonomies médicales et juridiques en fait du 19e siècle, mais aujourd'hui je vous invite en fait, si vous voulez, à vous désidentifier très rapidement, et puisque en fait tout ça c'est absolument archaïque. Voilà, donc entre autres choses, et même si vous pensez en fait que vous êtes hétérosexuel par exemple, donc vous dites il y a aucun problème, je suis dans la normalité, oui, mais si vous êtes hétérosexuel et vous consommez une pilule anticonceptive ou vous consommez du Viagra, et donc ça veut dire en fait que votre hétérosexualité est une parodie pharmacologique, et donc à ce moment-là, en fait, en réalité, vous n'êtes pas exactement hétérosexuel, mais autre chose. Et donc je vous invite, si vous voulez, à penser à ces transformations justement, et à sortir de l'imposition en fait et politique en fait et médiatique constante en fait en France aujourd'hui, terrifiante en fait, autour de la masculinité, la féminité, l'hétérosexualité, l'école, la théorie du genre, etc. C'est-à-dire la grande les grands objectifs du capitalisme contemporain aujourd'hui, c'est la production, la gestion de la subjectivité. Et donc, et la modulation du désir en lui-même. Et donc, et là-dessus, on est absolument, enfin, il y a une transversalité des techniques. Et donc, c'est une question qu'on doit se poser en fait de manière absolument collective. C'est urgent. De la même manière, je dis homosexuel et hétérosexuel. Hein, mais par exemple, moi-même, je me considère pas homme ou femme. En fait, je refuse en fait ces identifications normatives. Et je vous invite aussi à vous désidentifier, parce que vraiment, je ne comprends pas à quoi ça sert. Voilà.
Voilà, donc c'était un extrait de l'interview que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, désidentifications-nous.
Mais si on a notre identité et qu'elle nous va bien, mais je ne vois pas où est le problème.
Non, mais
je trouve que ça va un peu loin.
Ouais, moi, c'est loin. Surtout le truc de tu prends des pilules, du Viagra, du machin, généralement, pas pour te faire plaisir, mais... parce que t'en as besoin, quoi, parce que c'est médical aussi, le Viagra, et donc t'es plus hétérosexuel, t'es plus un homme, t'es plus viril, tu peux plus avoir l'identité que tu t'es choisi parce que tu te soignes. Enfin, là-dessus, j'ai un peu du mal aussi.
Je pense qu'il mélange plusieurs choses, en fait. Ouais. Le côté tes désirs sexuels et ce que tu fais de ton corps et la façon dont tu es dans ton corps, c'est quand même deux choses différentes. Prendre une pilule et soit que son corps se transforme en homme ou en femme, ça ne veut pas dire qu'on change de désir sexuel, en fait.
Oui, après, là, je pense qu'elle parle de la pilule contraceptive, où en fait, j'entends ce qu'elle veut dire par rapport à la pilule. J'entends, ça ne veut pas dire que je comprends. J'entends dans le sens où, si tu prends une pilule, c'est pour faire des modifications, pour ne pas procréer, pour ne pas avoir d'enfants. Et alors, dans ces cas-là, peut-être que si tu ne veux pas d'enfants, elle invite en fait à aller explorer.
Bien
que
sûr.
Peut-être tu veux être, enfin tu veux, tu peut-être que l'homosexualité te conviendrait ou pas.
Attends,
laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais voilà, en fait, c'est plus. Elle dit pas, vous prenez la pilule, c'est pas naturel. Donc allez, soyez homosexuel. C'est peut-être, voilà, c'est juste une hypothèse. C'est une invitation à aller voir, à explorer d'autres choses.
Mais c'est pas ça qui me pose problème, c'est que son postulat de base, c'est si tu prends la pilule, du coup tu choisis de pas procréer, du coup va explorer. Donc, quelque part, ça part de l'idée de base que les personnes homosexuelles n'ont pas de désir d'enfant. Enfin, excuse-moi, moi ça me pose problème. Quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mix, toute son idée d'aller explorer et tout ça, mais carrément. Mais il y a tellement de trucs... mélangé, condensé, je pense qu'il n'a pas eu le temps, il, elle d'ailleurs, c'est marrant, on a chacune une manière de dire le pronom, mais il a tellement, il, elle, pas eu le temps de développer ses trucs, j'en sais rien, peut-être sa conférence a été... J'ai l'impression d'avoir un 5000 gondis de trucs et condensés devant moi et qui me font à chaque fois faire « Ah, mais pourquoi ?» Voilà, mais après, oui, mais au contraire, dépassons les stéréotypes de genre, allons voir ailleurs. L'amour, c'est pas une question de mec, de fille, c'est une question de personne, mais enfin, bref.
Alors, après, je répète, c'est un extrait de l'interview. Le bouquin est là. Si t'as envie d'en savoir un peu plus, je t'invite, Chloé, à aller voir son interview en entier, et puis peut-être lire le bouquin.
Oui, ok. Merci, avec grand plaisir. C'est cool, tu vois, on repart en petit débat... Bon, bah, du coup, si on voyait, je voulais vous proposer une manière de voir dépasser les stéréotypes de genre d'une manière un peu plus littéraire. Donc, je voulais vous proposer de vous lire l'introduction, le début du bouquin de Marion Zimmer Bradley, Les ruines d'Isis, dont je vous parlais tout à l'heure dans ma chronique. Alors, peut-être juste une petite rapide présentation de l'auteur. Donc, Marion Zimmer Bradley, c'est une papesse de la science-fiction. C'est juste... voilà, c'est mon idole. Enfin, je l'adore. Et donc, elle est née en 1930. Même en étant née en 1930, elle a eu deux maris, a divorcé. Elle a eu des rapports très difficiles avec eux. Donc, ses rapports aux hommes se sont un peu cristallisés. Et elle a été surtout une des premières féministes longtemps avant qu'il y ait la seconde vague du féminisme qui revienne. Et donc, justement, dans les années 60-70, quand il y a eu cette seconde vague qui a émergé, il y a eu aussi, on le verra peut-être parce que j'en ai toujours pas parlé dans Tata Chloé, mais il y a eu une radicalisation de ce mouvement féministe. Et cette radicalisation-là, Elle a conduit l'auteur, donc Marion Zimmer-Bradley, du coup, à des positions plus modérées que ce qu'elle avait auparavant. Et du coup, ce bouquin, moi, je le trouve excellent aussi, parce que comme ils le disent, un quatrième de couverture, les deux tendances féministes de Marion Zimmer-Bradley coexistent dans les ruines d'Isis. Donc on a ces deux tendances-là. Je ne suis qu'un homme, je n'ai pas ma place au paradis. Deux fois, j'ai goûté le bonheur, et deux fois, il me fut ravi. D'abord, quand j'ai quitté le ventre de ma mère, puis, quand de sa maison je fus chassé. Quand j'en aurai fini avec la vie, la déesse acceptera-t-elle de me serrer tendrement sur son cœur ? Chant de la maison des hommes d'Ariane. Le pilote de la navette était une femme. Sandry y était préparée, intellectuellement, mais elle éprouva un choc en sa présence, en présence de la réalité. Petite femme musclée, cheveux courts, bandeau de tissu métallisé autour des seins, second bandeau, plus large, autour des hanches, et petit badge écarlate éplingué sur la bretelle. L'observatrice en Sandry, l'anthropologue qu'elle était, se demanda automatiquement. Uniforme, un signe de grade. Je ne savais pas qu'elles avaient un service spatial. Elles ont si peu de contact avec l'unité. Sandry avait envie de se cramponner à la main de Dahl, tout en sachant très bien qu'en cet instant de son arrivée officielle dans le matriarcat d'Isis Cendrillon, c'était la chose à éviter à tout prix. Le pilote attendait, haussant les sourcils. « Dame savante Maloc !» Sandry se ressaisit. Heureusement, la pilote devait présumer que le transfert de l'astronef de l'unité par le transitube l'avait désorientée, la laissant incapable de parler. Sandry sut qu'était venu le moment de vérité. De vérité, le moment plus tôt où elle devait commencer à jouer son personnage. Elle dit, se raidissant pour faire ce mensonge, « Je suis la dame savante Maloc. » Grave et solennelle, la pilote fit le geste cérémonieux, main jointe à hauteur du visage, qui, sur toutes les planètes de l'unité, était le salut universel et le témoignage de respect. Sandry se demanda qui le lui avait enseigné. « Bienvenue au matriarcat d'Isis, dame savante. » De nouveau, avec détachement, Sandry prit mentalement des notes. Elle n'utilise pas le nom de Cendrillon. Elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle s'en serve, même si les archives de l'unité et d'université mentionnaient toujours la planète sous le double nom d'Isis Cendrillon. Et voici sans doute l'époux et compagnon de la dame savante, dit la pilote, jetant à Dahl un regard froid, impersonnel, clinique, comme s'il n'était qu'un sac ou une valise. Sandry acquiesça. Elle et Dahl en plaisantaient depuis des mois. Cela leur avait semblé une innocente imposture, une formalité, un détail technique sans importance. Ils avaient ri ensemble de la rigidité des lois du matriarcat d'Isis Cendrillon. Mais devant le regard indifférent et glacé de la jeune femme, cela avait cessé brusquement d'être drôle. Dahl était derrière elle, où elle ne pouvait pas rencontrer son regard, même pour se rassurer momentanément dans la plaisanterie partagée. « Oui, dit-elle, il s'appelle... » Mais la pilote n'écoutait pas. La dame savante sait sans doute que l'importation de mâles d'outre-planète est techniquement une infraction aux lois du matriarcat. Comme la dame savante le sait, des concessions ont été faites par égard pour son statut respecté de dame savante d'université. Mais certaines formalités demeurent. Je dois remplir une déclaration au nom de la dame savante. A-t-il un tatouage de propriétaire ? Demanda-t-elle, sortant un formulaire et de quoi écrire. « A-t-il un quoi ?» Dissimulant son impatience, la pilote répéta. « Un tatouage de propriétaire ou une marque au fer rouge, bref, un signe indélébile, indiquant qu'il est votre bien et votre responsabilité. Ma connaissance de la langue de la dame savante est-elle insuffisante ? La dame savante désire-t-elle que je fasse venir une traductrice officielle ?»« Non, non merci, » dit Sandry d'une voix mourante. Le terme ne m'est pas familier, c'est tout. Non, Dahl n'est pas... n'est pas tatoué ni marqué au fer rouge. Ce n'est pas notre coutume de défigurer les mâles. » La jeune femme haussa les épaules avec indifférence. Comme je l'ai dit à la dame savante, des concessions étaient faites par égard pour son statut respecté, par intervention spéciale de la pro-matriarche, en tant que courtoisie diplomatique. Sans modifier son ton inexpressif et courtois, elle parvint à faire entendre qu'à son avis, ces concessions étaient une erreur. Voilà, c'était un petit extrait de l'intro pour vous mettre en bouche, vous donner envie de lire la suite.
Eh ben moi, ça m'a donné envie de lire. Ouais. Mmh. Tu veux pas nous lire tout le bouquin?
Ah bah si tu veux, écoute.
On peut se faire... Ah ouais, je vois bien le truc là, au printemps, là, dans l'herbe, avec Chloé ou Tata Chloé qui nous lit le bouquin.
On fera des séances sur le champ devant Radio Larzac. Ça
sera trop
petite
bien.
Petite lecture.
Ah oui.
Il y aura le Balou, du coup, il viendra joindre à nous.
Bah non.
Allez, vas-y, un mec, hein, c'est ça, d'un coup. Bah regarde, lui il est tatoué, tu vois, il est pas marqué au fer rouge, mais il est tatoué.
Ouais.
Musique ?
Un peu de musique, ouais.
Allez,
c'est parti avec Collectif Married, avec Mina.
Si nous avions une cuisine, Sophia, nous y serions passés après souper. Pour vaquer aux tâches ménagères et papoter sur les thèmes domestiques les plus insignifiants. Pendant que les hommes seraient sortis fumer et discuter sur les thèmes les plus importants qui soient. Et à l'occasion décidée de nos filles.
Elle regarde la rumeur de la mer, visage marqué par la douleur, lueur dans l'écume, elle ressac, ce corps trop courbé par la vie, il est temps de vider son sac, seule la mort la délivra de ses putains de vie, elle sait trop, tue ses silences, la tue, dès l'enfance savoir que t'es pas la bienvenue, pas de garçon dans la famille, pour son père était malvenu. Quand la sécheresse a tout détruit, c'est pas l'eau, mais les coups qui ont plu. Sa sœur s'est enfuie, elle l'a plus jamais revue. Le père picolait de plus en plus, et quand ses règles sont apparues, c'est le voisin qui l'a souillée. De putain, elle fut traitée, il paraît que c'est pour l'honneur que dans la rue. Son père l'a jetée, elle a erré pendant des mois sans rien manger et prendre du poids. Elle comprit vite qu'elle attendait un petit d'homme, issu de la violence des hommes. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Sa route l'a menée à Barcelone, pas doute c'est en été que nous sommes. Dans chaque rue, dans chaque allée, bistrot ou assemblée, c'est la révolution qui bourdonne. Des rêves de liberté, bourgeonne, c'est dans la peur et la fuite que les bourges donnent. Ici quand les fous dorment, leurs songes sont anarchiques et les armées faites de rêveurs. Bien loin d'elle le temps des pleurs, elle a trouvé avec sa fille refuge chez des amis de Durruti. Fini le temps des jugements, des curetons, l'envoi inquisiteur et autres crétins. Et pourtant, le clan républicain se déchire par les armes et le sang. Elle s'enrôle comme infirmière et part au front. Les rêveurs peindront la guerre et se replieront. La plupart de ses amis, morts ou disparus. Elle quitte l'Espagne, pays perdu. Elle et sa fille, emplies de rage, doivent encore fuir la violence des hommes une fois de plus. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues.
Si un jour je change, je m'en irai loin d'ici. Loin. Très loin.
Je t'irai.
On est tous merdiers. Me marier, faire la bouffe. Et... Je dis pas ça pour toi, moi. C'est pas mon idéal de vie, ça.
Qui tu te prends, toi?
Rassure-toi, pas pour ta fille. Ça veut dire que moi, je vais me battre. Je veux pas vivre dans une bulle toute ma vie, moi. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de vivre.
Les années passent, mais la rage reste intacte, voilà l'impact. Des années de lutte, de combat et de porte claquée après insultes et coups de matraque, des gardes à vue, visage plaqué sur le bitume. Trop de vies ont passé entre le marteau et l'enclume. Elles ont tant lutté contre l'odorance avec leurs plumes. Elles ont tant crié contre cette vieille France, sourde et mal baisée finalement. Obtenu le droit d'aimer sans procréer en 67, 3 ans après, le MLF est enfané. Plus jamais les yeux baissés, plus jamais honte d'avoir recours à l'IVG. 1975, notre corps nous appartient. Enfin, nos filles auront d'autres choix que celui de choisir entre mère et putain. Pouvoir dire non, vouloir plein d'autres choses, changer d'avis et aimer à l'envie. Être plus et plus encore qu'un simple corps qui donne la vie. Aux femmes oubliées dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir.
Les cyprinettes voguettes.
Les cyprinettes voguettes. Les cyprinettes voguettes.
Sur Radio Larzac. La boîte de Pandore.
Qu'est-ce que c'était ça?
C'est une porte qui s'ouvre. Ben oui, tu l'as reconnu.
Oui, d'accord.
Bon, ben voilà.
Okay.
C'est bon, on la garde.
Je vais me mettre à chanter. Alors, ben maintenant, c'est le petit moment BD. Poum, si pas. Poum, blap, whiz.
Boum, je sais pas.
Donc, les images BD en radio. Ok, on va essayer. Alors, fermez les yeux.
Imaginez-vous Olive, Olive de Popeye, Olive, qui fume la pipe, qui nous fait à tous un joli bras d'honneur en affirmant « We do it too ». Donc ça, c'est le message des auteurs de BD aux officiels du Festival d'Angoulême. Parce que la publication de la liste des nominés au Grand Prix du Salon International de la BD d'Angoulême, qui se passe d'ailleurs, pour info, du 28 janvier au 1er février de cette année, c'est un événement attendu par tout le milieu de la bande dessinée. Et cette année, c'est pas les nominés qui ont fait le buzz, mais les absents, ou plutôt les absentes. En effet, à la publication le 5 janvier de la liste du prix 2016, stupeur, aucune femme ne figure parmi les 30 auteurs sélectionnés. La polémique ne se fait pas attendre. Le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme dénonce une discrimination évidente et une négation totale de notre représentativité dans un médium qui compte de plus en plus de femmes. Et ce collectif appelle au boycott du Grand Prix. Riyad Satouf, l'auteur de L'Arabe du futur et qui fait partie de la liste des nominés, se retire de la sélection et indique sur sa page Facebook qu'il préfère céder sa place, par exemple à Rumiko Takahashi, Julie Doucet, Anouk Ricard, Marjane Satrapi ou Catherine Meurice. Il espère pouvoir réintégrer la liste le jour où elle sera paritaire. D'autres auteurs sélectionnés rejoignent le mouvement de protestation comme Johan Sfar, Charles Burns, Étienne Davodeau, Daniel Clow, Pierre Christin, François Bourgeon, Chris Ware, Christophe Blain et demandent tous à être retirés de la liste des nominés.
Mais il n'y aura plus personne en fait alors.
Presque. Mais il y en a encore qui sont restés, t'inquiète pas pour eux. Même la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, notre chère Fleur, s'est dite sur France Info très préoccupée par cela, pas par militantisme, mais parce qu'elle considère que la culture doit être exemplaire en matière de parité.
Merci Fleur.
Ah oui, qu'est-ce qu'on ferait sans toi. Bon, dans le même temps, l'illustratrice Al Raun lance sur Twitter le hashtag WomanDoBD pour parler de super BD faites par des dames. Alors, les organisateurs du Festival d'Angoulême ne tardent pas à répondre le 6 janvier par un communiqué diffusé sur le site internet du festival où ils expliquent leur choix de n'avoir sélectionné aucune femme car force est de constater qu'il y a très peu d'auteurs reconnus. Les organisateurs proposent d'introduire de nouveaux noms d'auteurs dans la liste des sélectionnés au titre du Grand Prix 2016, mais finalement, ils se ravisent le lendemain dans un nouveau communiqué et invitent l'ensemble des auteurs de bandes dessinées à voter librement pour désigner comme lauréate l'auteur de leur choix, dès 2016, sans piocher son nom dans une liste préétablie par eux. Changement. Oui, ça y est, ça marche. Si cette polémique a pris une telle ampleur...
Désolée, j'ai pas assez sorti tout ça.
Non mais fais-toi plaisir.
Ouais. Si cette polémique donc ça a pris une telle ampleur, c'est surtout que depuis quelques années, il y a dans le milieu du 9e art un vent de révolte qui souffle. Parce qu'en 42 ans de Festival d'Angoulême, une seule femme a reçu le Grand Prix de la BD. Et encore, c'était pas un prix officiel, c'était un prix annexe. Il s'agit de Florence Sestac, récompensée en 2000. Il y a aussi la dessinatrice Claire Bretécher qui a obtenu un Grand Prix du 10e anniversaire en 1983. En 2013, l'auteur de BD Lisa Mandel monte donc l'événement Les Hommes et la BD pour le Festival d'Angoulême de 2014. C'est une exposition donc qui a été exposée en 2014. Et qui, cet événement, c'était une parodie de l'exposition collective intitulée La BD des filles, organisée par le Centre belge de la bande dessinée, et qu'elle jugeait sexiste. Effectivement, si vous regardez sur le site internet, salut Maïlo, lui aussi le juge sexiste, hein, il veut parler. Et donc ouais, si vous regardez les images de l'exposition collective La BD des filles, c'est assez sympa dans le cliché et les stéréotypes. Lisa Mandel contacte alors 30 auteurs de bande dessinée pour recueillir leurs avis sur le fait d'être une femme dans la BD. Elle reçoit une abondance de réponses et d'anecdotes à caractère sexiste qui montrent un malaise de grande ampleur. C'est à ce moment qu'un rassemblement de femmes auteureuses se crée rapidement, dépassant la barre des 100 personnes en quelques jours. Ensemble, elles rédigent la charte des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Sur le site du collectif, où l'on peut consulter la charte, on peut lire des dizaines de témoignages d'auteureuses qui racontent les clichés sexistes auxquels elles sont confrontées dans leur travail. Alors depuis, le collectif, via son blog, dénonce toutes les formes que prend le sexisme dans le milieu de la bande dessinée. Que ce soit contre les auteurs eux, mais aussi dans le fond et les histoires publiées en bande dessinée. Bon, pour en revenir au Festival d'Angoulême, mais comment il va s'en sortir de cette polémique, cette fronde des auteurs eux et des auteurs qui a reçu le soutien de toutes parts? Est-ce qu'elle annonce le début d'une reconnaissance du travail des auteurs eux de BD comme artistes et non comme femmes? Donc les premiers éléments de réponse au Festival d'Angoulême qui ouvrira ses portes le 28 janvier et où l'ambiance risque d'être électrique. Et merci au site Connaissance des Arts pour cet article.
Eh ben, moi il me tarde de voir comment ça va se passer. Ça va être bien électrique.
Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Angoulême et d'aller au musée de la BD. Je sais pas. Enfin, moi personnellement, ouais. J'ai trouvé nul à chier. Voilà, j'en fais pas de la pub. Voilà. Okay. Non, mais c'est hyper aseptisé. Enfin, c'est, alors, l'extérieur paraît super joli. Déjà, t'arrives de loin, tu vois une statue de Corto Maltese, tu dis, ouais, ça va être trop bien et tout. Puis t'arrives, l'extérieur, ça fait très vieille gare, vieux bâtiment. Tu dis, ouais, ça a la classe, ça a de la gueule. Et puis tu rentres à l'intérieur, déjà, t'as tous les murs, ils sont gris. Toutes les BD, elles sont sous vitrine. Enfin, vraiment.
Tu peux pas toucher. Moi, non. J'étais frustrée. J'étais devant, j'étais là. Mais oui, j'y suis allée, mais j'étais devant, j'étais là. Ah, c'est trop horrible.
Enfin, il est pas terrible ce musée. Enfin, moi, je m'attendais à avoir un truc de ouf avec des figurines partout, etc. Enfin, mais non, c'est.
Bah, je sais pas, moi, un musée, je m'attends à prendre des trucs. Et là, c'était surtout, j'avais l'impression, une exposition, collection, un étalage. Ouais. Et en plus, tu peux pas toucher alors que la BD, t'as envie de toucher, t'as envie de lire. Enfin, je sais pas. Ouais, bon, c'est peut-être pour les collectionneurs, mais en tout cas, moi, bof.
Ouais, bof. Ouais, voilà. On va dire bof que nul à chier, c'est mieux.
Ouais, c'est ça.
Mesdames, c'est l'heure de prendre vos carnets roses et votre stylo à paillettes. Avant d'attaquer, eh bien, je voudrais remercier Monsieur Fred pour m'avoir passé le guide de la femme parfaite, voilà, de la future épouse, enfin de la bonne épouse. Eh bien, Fred, mais que serais-je sans toi ? Grâce à toi, je vais pouvoir être une parfaite épouse et satisfaire aux besoins et attentes de mon futur époux. Merci, Fred. Alors, donc, ceci est la fidèle traduction d'un authentique extrait d'un manuel scolaire d'économie domestique anglo-saxon publié en 1960. Ça va peut-être piquer un peu des fois, je vais avoir un peu du mal. Alors, faites en sorte que le dîner soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat préféré, fait partie de... la nécessaire chaleur d'un accueil. Non mais j'ai vraiment du mal parce que à m'imaginer préparer à manger à l'avance pour satisfaire aux besoins d'un homme. Soyez prêtes, prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Des choses à dire ?
Mais bien sûr, totalement.
Ça date de quand déjà ?
1960.
Ouais, Émilie avait un doute, oui.
Voilà, c'était il n'y a pas longtemps quand même. Rangez le désordre. Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers, etc. Et passez ensuite un coup de chiffon à poussière sur les tables. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer un feu dans la cheminée auprès duquel il puisse se détendre. Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre et cela vous rendra également heureuse. En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Tu entends, Solène ? Hein ? Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez-lui de la sincérité dans vos désirs de lui plaire. Écoutez-le. Écoutez-le. Mais oui, mesdames, c'est très important. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Et oui, faites en sorte que la soirée lui appartienne. Non, mais les filles, quand même, Marie, je suis désolée, mais tu pourrais en prendre un peu de la graine. Ah oui, ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison. Eh oui,
ah, oui.
Il a tous les droits.
Mais c'est ça.
Attends.
Alors, donc, ou sort pour dîner pour... Alors, attendez, non, mais je... Voilà, donc, ne vous plaignez pas, ou sort pour dîner pour aller...
Ça veut rien dire.
Attends, mais laisse-moi finir. Mais si, regarde, ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison ou sort pour dîner, ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, et où votre mari puisse se détendre son corps et son esprit. Alors là, ça c'est pour toi, Chloé. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes.
Oh. Pourquoi c'est pour moi ?
Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le dîner ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable, une petite pipe, ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses chaussures. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et que tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Et pour finir, l'hygiène féminine. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain comme il aurait à la faire pour prendre son train. C'est vrai, on est des filles, on passe trois plombes dans la salle de bain. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. Voilà le guide. J'ai pas tout dit parce que je pense que sinon on va finir... un peu vénère.
Qui est marié dans la salle ?
Pas moi.
On comprend mieux pourquoi.
Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Résiste.
Prouve que... Eh bien, les Cipinettes 4 aides, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie de vous mettre au coin du feu avec une bonne pipe, un bon verre de vin, un bon bouquin pour passer vos longues soirées d'hiver. Merci Marie.
Avec plaisir.
Merci Radio Larzac.
Et à la prochaine.
À tout bientôt.
Merci Émilie.
Ah oui, c'est vrai. Ah ouais,
ouais. Et on a oublié des merci aussi.
Eh ben, on a oublié de dire merci à Solène et puis à Petit Maïlo.
Ouais, ça y est, on a tout dit.
Des bisous à tous. Et à tous. Ouais.